pour vous, voici Page après page avec Gisèle. Une rencontre intimiste avec un auteur.
Je bascule à l'eau, horizontale, démissionne ma vie, verticale, ma pensée se fige, animal, abandon du moi, plus des moi. Je ressens ce qui nous sépare, me confie au gré du hasard, je vire de
je vous retrouve avec plaisir et je suis aujourd'hui en compagnie d'une jeune auteure, Émilie Perret. Jeune étudiante à Toulouse, elle vient nous présenter aujourd'hui son tout premier roman, c'est une fiction, Personne. C'est paru chez Vérone Édition dans la collection série Évasion et c'est depuis le début janvier que l'on peut trouver ce livre dans les rayons. Bonjour Émilie.
Bonjour.
Vous nous avez trouvé une belle musique que l'on vient d'écouter et c'est Mylène Farmer. Pourquoi ?
Cette chanson m'a fait penser tout simplement à mon roman. Et en plus, je l'écoutais à chaque fois que je l'écrivais. Dès que j'écrivais un chapitre qui me semblait douloureux, j'écoutais cette musique.
Et d'où vient cette passion pour l'écriture ?
Ça me vient de mon enfance. J'ai commencé à écrire à l'âge de 10 ans. Je voulais déjà écrire un roman sur la Deuxième Guerre mondiale à 10 ans. Et donc déjà, je voulais écrire sur des sujets pas faciles. Après, j'ai commencé avec des nouvelles aussi à 17 ans. Et après, ça s'est développé, j'ai continué sur des romans et surtout des sujets féministes. Là, c'est le premier, il est sur les agressions sexuelles.
En effet, vous nous présentez ce tout premier roman. Personnellement, il va m'être difficile de pouvoir en parler sans trop en dire à nos auditeurs. Le sujet, comment l'avez-vous pensé ou créé ?
Tout simplement, je suis féministe à la base. Et j'ai beaucoup d'amis qui ont été victimes d'agressions sexuelles, de tentatives de viol ou même de viol. Et je souhaitais dénoncer ce sujet à mon échelle.
D'accord. J'ai envie de dire que c'est un roman policier, un thriller. Vous aimez ce genre de littérature ?
Ah oui. Franchement, à la base, c'est même quasiment mes lectures de prédilection.
Ah oui.
Je ne suis pas fan des harlequins déjà à la base.
on peut aimer le policier dur sans arriver à l'extrême comme vous êtes arrivé, parce que c'est de l'extrême.
Oui, ça c'est sûr. Mais pour dénoncer un sujet aussi difficile, il fallait arriver à certains extrêmes. Ça, c'est malheureusement nécessaire.
Oh oui. Nous allons ouvrir votre livre. Ce livre s'appelle Personne, c'est paru chez Véron Édition dans la collection Série Évasion, mais je trouve que ce n'est pas trop sa place non plus. Peut-être que thriller ou roman policier dur, ça serait plutôt sa place. Qu'en pensez-vous?
En fait, je pense qu'ils ont voulu le mettre dans la collection Évasion à la base parce que c'est un roman, ce n'est pas une réalité, c'est une fiction.
D'accord.
Donc je pense que c'était fait pour ça à la base.
Et donc c'est paru au début janvier 2023, il est tout récent. Sans trop en dire, Camille, elle a 18 ans, elle rage d'avoir obtenu un petit 13 à son devoir et sa professeure a quelque chose contre elle ou pas à ce moment-là de l'écriture. Est-ce que c'est ça qu'on peut dire ou pas?
En fait, elle est quand même dans une filière prestigieuse et elle vient d'un milieu social défavorisé. Et en effet, certains étudiants de ces milieux sociaux se heurtent parfois à un mur au début de leurs études. Je ne dirais pas que la professeure a quelque chose contre elle, une rancœur en particulier,
Oui.
mais c'est souvent plus de la discrimination sans vraiment le vouloir, en fait.
D'accord.
On a souvent l'impression que ces étudiants n'ont pas leur place dans certains cursus.
C'est vrai que discrimination, il n'y a pas mieux. Qui est Camille, cette étudiante brillante finalement, parce qu'elle brille dans ses études?
Donc, c'est une étudiante qui, à la base, n'a pas de parents. Elle est orpheline et a été élevée dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance. Donc, c'est un passé qui n'est pas forcément facile à porter, surtout pour en arriver là où elle en est arrivée. Même à la base, mon roman aussi, je voulais démontrer que tout le monde peut y arriver, etc. Mais que le passé d'une personne n'est pas une fatalité non plus, déjà.
Tout à fait, tout à fait. Puis on n'est pas responsable de son passé à un si jeune âge.
Non, ça c'est sûr.
Cette accroche du lecteur que vous nous avez faite là, elle est magistrale. Dès le premier chapitre, on est aspiré. Et dès le chapitre 2, vous nous faites basculer dans l'horreur. Alors, on est dans le doute parce que cette professeure, un petit peu, veut écraser cette jeune Camille. Mais dans le chapitre 2, là, on bascule vraiment dans l'horreur. Je sais que les auteurs comme vous sont magiciens. Comment vous est venue cette idée de nous mettre sur cette bascule et nous faire tomber finalement ?
C'est déjà dès le début, c'était quand même un petit peu tendu. Je pense que vous l'avez senti
oui.
Justement pour Camille au niveau de ses études et ainsi de suite. Donc c'était justement mais pile poil le bon moment pour montrer un petit peu tout ce que je voulais dénoncer. Donc l'horreur de vivre une agression, tout ce que ça peut faire. Et puis même le côté un peu barbare de l'être humain sur certains points.
Ah oui.
Dès qu'on lui laisse le champ libre, l'être humain est capable des pires atrocités.
C'est vrai, c'est vrai. Je trouve une phrase, comment dire cette phrase ? Je la trouve belle dans le contexte, mais je la trouve horrible parce qu'elle est trop dure, elle est... Quand on l'a lue, alors je cite « Ce corps, une décharge publique pour fantasme détraqué, corps devenu le cercueil de son âme ». Alors dans le contexte, oui, on se dit c'est bien écrit, c'est beau, c'est une belle phrase, mais elle est tellement forte et puis surtout, elle fait peur à la fois. Comment vous avez eu cette idée-là de mettre ça ? On vous l'a dit dans les renseignements que vous avez pêchés partout ?
Oui, en fait, honnêtement, j'ai pu entendre de beaucoup de victimes, etc., ou même lu dans des témoignages de victimes d'agressions, même pendant les guerres. En fait, elles le disent qu'en général, ce sont des morts vivantes à la fin.
D'accord.
Voilà. Elles ont l'impression d'être mortes, mais que leur corps est toujours vivant. Donc elles ont quitté ce corps depuis longtemps. Et
D'accord.
que leur corps est sale. C'est vraiment l'impression qu'elles en ont à chaque fois.
Oui.
Donc c'est pour ça que j'ai utilisé le terme de décharge, parce qu'en fait, c'est vraiment la chose qui nous semble le moins propre, la moins propre au monde, en fait.
Oui. Je l'ai compris, hein, ce double sens et ce sens ambigu que vous avez voulu y mettre, mais ça a été tellement fort à lire que je l'ai lu peut-être deux fois, même peut-être trois, parce que j'y suis revenue dessus. On le disait, vous avez eu besoin de renseignements pour écrire sur cette horreur que vous nous faites vivre là. Vous vous êtes aussi renseigné auprès des agents de police, d'associations ou ailleurs?
Auprès d'associations féministes, oui,
Oui.
qui aident les victimes à la base, etc. Et même la police, je ne vais pas vous le cacher, je voulais être magistrate à la base, je voulais être procureure.
Oui.
Donc je me suis renseignée, mais dès le début, parce que justement, moi, je voulais changer les choses.
Oui.
Je voulais être procureure au pénal. Donc je connaissais déjà un peu ce milieu-là, etc.
Et vous avez pu avoir quelques renseignements de ce côté aussi de la barrière.
Oui, j'ai une amie qui est policière aujourd'hui et qui m'a dit que malheureusement, on écoute vraiment très très peu les victimes. C'est ça le souci. Mais pas forcément non plus par manque de volonté de la police, des fois par manque de moyens ou par manque de formation en fait.
Oui.
Des fois ils ne veulent pas faire du mal aux victimes, mais comme ils n'ont pas été formés pour ça, eh bien ça part de travers quoi en
Oui.
fait. Les questions qu'ils leur posent sont souvent trop intrusives, trop à côté de la plaque ou même humiliantes, sans qu'ils le veuillent en fait.
Page 16, Émilie se croit au paradis. Elle revient à elle petit à petit, puisque bon, elle a eu un énorme traumatisme. Enfin, c'est un traumatisme dans les traumatismes, hein. Et très vite, vous la faites basculer dans l'autre enfer, celui de la normalité, s'il en existe une, comme elle dit. Une grande émotion s'empare du lecteur. C'est voulu d'impliquer le lecteur dans cette enquête?
C'est voulu. En fait, je voulais que le lecteur aussi même se rende compte de ce que ça peut faire pour une victime quand elle sort de l'enfer, mais qu'elle retrouve quand même une vie en quelque sorte normale. Donc la réalité, la dure réalité d'avoir été une victime malheureusement, et même de devoir se confier, donc que ce soit à la police, à ses proches. Là, la victime n'a pas de parents, etc. Mais c'est malheureusement en général les victimes ont honte même de s'exprimer devant leurs parents, devant leur famille, d'admettre ce qu'elles ont vécu.
Oui, surtout que là, c'est vraiment, elle a vécu le plus horrible qu'on puisse vivre,
Oui.
je pense.
Là, honnêtement, oui. Je me suis inspirée de beaucoup de choses, mais même de victimes qui ont vécu des traumatismes pendant la guerre même. Donc là, oui, en effet, elle a vécu la pire chose possible. Donc c'est encore pire, là, de pouvoir se confier, même de dévoiler vraiment certains sévices, même simplement
Oui.
certaines tortures qu'elle a vécues.
Oui.
Donc c'est vraiment ça le souci, oui. Et je voulais vraiment que le lecteur le sente, que c'est pas évident.
Je vous assure qu'on le sent très bien et on le ressent très bien. Et il faut être vraiment bien planté sur sa chaise ou sur le fauteuil pour arriver à lire d'un seul trait. Il y a des fois, il faut ouf.
Honnêtement, c'était le but, oui. Je voulais montrer que pour les victimes, c'est très difficile de se confier et même d'admettre
Oui.
ce qu'elles ont vécu, et surtout qu'elles doivent le décrire en détail à la police quand elles veulent porter plainte ou qu'importe. Ou même à leur famille, souvent, il y a les questions qui peuvent sembler bizarres. Pour les victimes, on leur pose souvent la question, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais qu'est-ce qui t'a fait exactement? Les gens posent toujours ce genre
Oui,
de questions un peu mal placées.
oui, 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 oui. Et en même temps, côté policier, je trouve qu'il faut qu'il les pose parce que pour pouvoir arriver à mener à leur fin une enquête, il faut aussi qu'ils aient un maximum de billes, si je peux dire, dans leur besace, quoi. Comment un grand auteur que vous êtes, parce que moi je vous qualifie direct dans les grands auteurs dès votre premier roman, hein, ce tour de force, ramener Camille de l'enfer, est-ce que vous aviez fait un plan avant d'écrire votre livre en situant un petit peu les personnages, les victimes ou pas?
Honnêtement, pas vraiment. Je ne fais pas partie de ces auteurs qui font des plans.
Oui.
Moi, par contre, il y a une chose que j'ai faite qui pourrait peut-être aider certains à se débloquer. J'ai commencé par la fin.
D'accord, beaucoup d'auteurs commencent par la fin, c'est vrai.
Ça permet de se débloquer, en fait. Vous écrivez en général le premier chapitre et puis au fur et à mesure, vous finissez par être bloqué. C'est à ce moment-là qu'il faut écrire la fin. Ça débloque tout, justement, parce qu'après, on sait où on veut arriver.
D'accord. D'accord. Vous avez pensé une équipe médicale bienveillante, Mais votre plume y a introduit un petit quelque chose qui peut mettre le lecteur à ce moment-là sur la piste. Mais on est tellement pris dans la situation de Camille qu'on ne voit pas ce que vous avez voulu mettre. Est-ce que ce petit quelque chose, c'est tellement subtil que même moi, je ne l'ai pas vu. C'est un petit peu plus loin que j'ai dit, non mais attends, il faut que je revienne en arrière parce qu'il y a quelque chose qui m'a échappé. Vous êtes un auteur petit poussé à ce moment-là du roman?
Honnêtement, à ce moment-là du roman, je me doutais que les lecteurs ne s'en rendraient pas compte justement de ce que j'ai voulu glisser comme information à ce moment-là. Et c'est justement le principe d'un policier, c'est essayer de semer des pistes justement qui mettent le lecteur sur la voie mais sans qu'il ne s'en rende compte.
Vous l'avez réussi.
Pour moi, c'est ça le but d'un policier. Je n'aime pas les policiers où je connais la fin directement.
Je suis d'accord avec vous.
C'est ce que je voulais éviter, en fait.
C'est bien fait, c'est bien fait. 2 mois de disparition pour Camille. Personne ne voit rien. Le loyer devait être impayé, puisque personne ne pouvait payer, puisque Camille était dans un état pas possible. Comment est-ce possible que personne ne se rende compte, sans trop en dire encore une fois?
Eh bien pourtant, c'est plus commun qu'on ne le pense. Il y a des personnes qui meurent parfois depuis 5 ans ou quelque chose comme ça, et on les découvre, mais vraiment 5 ans après, quoi. C'est avec les prélèvements automatiques, le pas de nouvelles, bonne nouvelle, comme on dit, etc.
Oui.
C'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense de pouvoir disparaître, mais complètement des radars, sans que personne ne le sache, et sans que personne ne s'en rende compte.
D'accord.
Vraiment, j'ai vu ça même pas plus tard qu'il y a un an aux infos. Un homme qui était mort depuis 5 ans et puis son loyer était payé, les factures étaient payées car tout était en prélèvement automatique. Il n'avait pas de famille, donc personne ne savait qu'il était mort.
D'accord.
Alors qu'il était mort depuis 5 ans, la retraite tombait depuis 5 ans et ainsi de suite, tout était payé en automatique.
Eh ben.
Donc là, c'est pareil, la victime n'a pas de famille en quelque sorte, justement, donc personne pour signaler une disparition. Elle n'avait pas forcément d'amis non plus, donc personne qui se rend compte qu'elle n'existe plus, qu'elle
Oui.
ne sort plus de chez elle, etc. Et vous savez, il suffit que les voisins fassent semblant de ne rien entendre, de ne rien savoir,
Oui.
pour que ça puisse se passer malheureusement.
Oui. Mmh. Qui sont le capitaine Dubois et le lieutenant Henri Verneuil qui sont chargés à ce moment-là de l'enquête? Est-ce qu'ils sont des policiers qui vont aller chercher jusqu'au bout la vérité? Parce qu'à un moment, quand même, ça s'arrête, quoi. Pour eux, c'est une autre équipe qui reprend.
En fait, au début, ils essayent, justement. Ça,
Oui.
je pense que vous l'avez remarqué.
Oui,
Ils
oui.
interrogent la victime, ils vont à son appartement, etc. Donc oui, ils cherchent la vérité. Mais malheureusement, au bout d'un moment, ils se retrouvent bloqués, justement, dans l'enquête. C'est souvent le cas, malheureusement, même dans la réalité. Parfois, face à un manque de preuves, ils sont obligés mais de classer l'affaire ou même simplement parce qu'ils n'en trouvent pas. Donc ça les bloque dans leur enquête. Ils ont envie de croire la victime, mais malheureusement, ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout. Sans preuve, on ne peut pas poursuivre des personnes ou même retrouver des personnes.
Et oui,
C'est ça le souci.
forcément. Forcément. Et pourtant, ils ont des doutes quand même. Ils se doutent qu'il y a quelque chose d'énorme derrière.
Oui.
Et est-ce qu'à ce moment-là, ils ne retrouvent, justement, cette équipe-là ne retrouve pas d'autres victimes?
À ce moment-là, honnêtement, ils ne se doutent pas forcément de grand-chose non plus. Ils se doutent que, oui. C'est pas leur coup d'essai, en quelque sorte.
Oui.
Mais, vous savez, des fois, ils
Oui.
peuvent pas forcément aller jusqu'au bout de l'enquête, quoi. Là, c'était vraiment le but.
Oui, oui, oui.
Puis là, en plus, c'était fait exprès, justement. Il y avait tout qui avait... En fait, il y avait les pistes qui avaient été brouillées, et
Oui.
ainsi de suite, pour justement éviter qu'ils ne puissent mener l'enquête jusqu'au bout.
D'accord. Page après page, on rencontre le docteur Thomas. Là aussi, on ne va pas le dévoiler. Mais qui est-il, finalement?
Eh bien, c'est en quelque sorte un médecin, justement,
Oui.
mais un médecin qui se sert de son métier, pas forcément à des fins très sympathiques.
Tout à fait.
Voilà.
On va s'en tenir à cette réponse.
Voilà, on va s'en tenir à ça, je pense que ça vaut mieux.
Camille doit suivre un troisième calvaire, celui des psychiatres. C'est encore une autre torture que vous lui rajoutez. Et c'est toujours ce retour en enfer que vous lui faites faire. Vous ne la gâtez pas trop quand même, hein ?
Ah, malheureusement, non, mais en général, on ne gâte pas les victimes d'une agression, c'est ça le souci. C'est que oui, en effet, elles passent toutes plus ou moins par la psychiatrie. Et en général, c'est pas forcément une partie de plaisir. Il y a des psychiatres qui ne croient pas forcément aux vertus de la thérapie. Surtout même à certaines époques, on pensait surtout que c'était les médicaments qui pouvaient aider les victimes. Donc en général, on les mettait sous antidépresseurs ou des choses comme ça. Alors que c'est pas forcément ce qui peut aider une victime. En général, ça a été démontré, il vaut mieux leur faire suivre des thérapies, donc par la parole en général. Ne pas hésiter à les laisser prendre leur temps pour raconter ce qui leur est arrivé. Mais surtout à apprendre à se réapproprier leur corps, en fait. Que justement se dire que leur corps n'est pas sale, que ce n'est pas leur faute, et c'est ça le plus difficile, en fait.
Oui, parce que Camille, elle n'a pas été gâtée, la pauvre.
Non.
Émilie, nous allons faire une petite pause musicale. On va reprendre un petit peu notre souffle. Nous en avons besoin avec cette lecture. Qu'est-ce que vous nous proposez?
J'y crois encore, de Lara Fabian.
Oui, pourquoi?
Car pour moi, cette chanson symbolise la dépression.
Oui.
Et là, c'est l'état d'esprit de Camille, justement. Elle n'est pas bien, elle n'est pas en état. Donc, c'est pour ça. Pour moi, cette chanson, elle symbolise un état d'âme vraiment très sombre. Et surtout, un état d'âme déprimé pour la victime.
Oui. Et là, vous pensez que Camille, à ce moment-là, peut encore revenir à une normalité, encore une fois, s'il en existe une?
Avec beaucoup de temps et avec du soutien, pour moi, c'est possible, mais ça va prendre vraiment énormément de temps.
Oui. Ça prendra toute une vie.
Voilà.
Eh bien, on écoute Lara Fabian.
D'ici, rien ne parle, rien ne bouge. Arrêt sur écran vivant. Isolé, vaincu sans doute, aliéné. Pas même un battement. J'aimerais qu'on
Vous écoutez Page après page et je suis en compagnie d'Émilie Perret pour son tout premier roman fiction, Personne, paru chez Véron Éditions dans la collection série Évasion. Il est paru au début janvier 2023. Puisque nous avons tourné les pages, nous sommes au chapitre 6. On découvre une deuxième victime avérée. Elle s'appelle Cécile. Ces victimes, donc, vous les avez créées à mesure du besoin, ou est-ce que vous aviez déjà dans votre tête, avant l'écriture, tant de victimes à placer?
Honnêtement, je les ai plutôt créées au fil du temps.
D'accord.
Je les ai créées au fil du temps, oui, parce qu'au début, c'était surtout, je voulais me concentrer sur Camille, mais après, j'avais envie que, justement, nos criminels repassent à l'action.
Oui.
Donc, c'est pour ça. Cette victime a été créée au fur et à mesure des chapitres, oui.
D'accord. Le temps court, 10 ans passent, et Camille est toujours suivie par le psychiatre. Donc, on le disait tout à l'heure, il faudrait presque une vie pour se remettre de choses pareilles. Pourquoi vous n'êtes pas à... Ou alors, peut-être c'était le besoin du livre, à la faire se reconstruire. Et pourquoi l'avoir autant esquintée? Parce qu'elle est esquintée, bon, physiquement, ça se comprend. À la lecture du livre, on comprend qu'elle n'est plus une personne. Mais comment l'avoir esquintée aussi Oui, vous allez me dire que le moral va avec le reste. C'est votre réponse, j'en suis sûre.
Honnêtement, oui. Et puis pas que. C'est quand on a vécu ce genre de choses, on ne peut pas s'en remettre facilement. C'est impossible. Mais vraiment, du moment qu'on subit une agression sexuelle, une tentative de viol ou même un viol, on ne s'en remet pas comme ça. Et c'est surtout le mental, en fait, qui pêche. Ce n'est pas forcément que le physique. C'est vraiment le mental qui... va être mais complètement détruit.
Mmh. Une fiction comme celle-là, bon, vous me dites que vous avez eu envie de l'écrire et que vous l'avez fait assez spontanément, mais comment on peut arriver à imaginer? Parce que à mesure de l'écriture, quand même, vous vous rendiez compte de ce que vous écriviez et de ces horreurs qu'il vous fallait écrire les mots les plus justes possibles. Est-ce que même pour vous, ça n'a pas été trop dur?
Même pour moi, ce n'était pas simple, on ne va pas se le cacher. Il fallait trouver les mots justes, comme vous l'avez dit, et ça, ce n'était pas facile. Et surtout, en fait, c'était vraiment, je m'étais inspirée de témoignages de victimes. Donc en fait, c'est ça le souci, c'est je me dis d'un côté, je ne dois pas déformer la parole des victimes et ce qu'elles ont voulu dire, mais d'un autre côté, je dois essayer quand même de ne pas trop traumatiser mon lecteur non plus, quoi. Et ça, c'est ça le problème, c'est le juste milieu, quoi.
Oui. Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments au cours de l'écriture où Camille vous a dit « là, tu vas un peu trop loin quand même, et tu me fais un peu souffrir un peu trop » et est-ce qu'elle ne vous a pas dit qu'elle en avait assez de souffrir?
Quand même, si. À certains moments, forcément, je me disais « là, c'est vrai que c'est la dégringolade, mais à chaque fois, il y avait toujours quelque chose. » Mais c'est toujours comme ça, même pour les victimes. C'est, d'abord, il y a l'agression, après, il y a l'état d'âme, donc la dépression... Il y a le passage chez le psychiatre, chez le psychologue, et ainsi de suite, ou par des médecins pour essayer de vous soigner, vous reconstruire. Et puis il y a aussi cette envie justement de vengeance qui vient après chez certaines victimes, justement. Certaines qui ont envie de retrouver leur agresseur pour justement leur faire vivre les mêmes choses, ou même tout simplement pour les assassiner, ou que sais-je. Ça peut arriver.
Pourtant Camille, elle en est loin de ce désir de vengeance, en tout cas. Dans ce que j'ai cru comprendre avant d'arriver à la fin.
Alors là, ça oui, ça c'est sûr, elle en est vraiment loin, mais forcément elle n'est pas dans un état d'esprit pour vouloir se venger. Elle est déjà pas bien psychologiquement, elle n'est pas bien physiquement non plus, il faut déjà qu'elle s'occupe d'elle avant de s'occuper d'une éventuelle vengeance.
Mmh. Chaque fois que Camille trouve une lueur, vous lui faites raconter encore une fois son calvaire. Et c'est ça qui aide... Finalement, le lecteur a mené sa petite enquête aussi, et ça, vous l'avez voulu?
Oui, honnêtement, oui. Mais même pas que ça. En fait, quand elle revit son calvaire à certains moments, c'est pour symboliser les flashbacks qu'ont certaines victimes après leur agression. Ça peut être par des cauchemars, ou tout simplement par des contacts physiques, ou même juste une odeur. Mmh. Elles se souviennent d'un souvenir refoulé, ou même simplement d'un traumatisme qu'elles ont vécu, comme ça, mais en direct.
D'accord.
C'est un lieu qu'elles auront toujours quitté physiquement, mais jamais psychologiquement, en fait. L'agression, mmh. Elles ne la quitteront pas forcément de sitôt.
Sans trop dévoiler et sans trop en dire, que pourrait, à ce moment-là du livre, que pourrait apporter une vengeance à Camille?
Honnêtement, La vengeance pour certaines victimes, c'est la reconstruction. Pour elles, c'est vraiment juste reprendre leur vie en main. C'est ce qu'elles pensent, du moins.
Oui.
Parce que la réalité est tout autre. C'est en fait, la vengeance n'est pas forcément la chose la plus simple à faire.
Nous arrivons au moment où le lecteur comprend ce qu'il faut comprendre. Le docteur Thomas est retrouvé mort, plutôt sauvagement, bien que finalement sa mort est plutôt, j'ai envie de dire, hein, moi en tant que lectrice, sa mort est plutôt douce à côté de la vie et le calvaire de Camille. Est-ce que c'est le virage que vous avez voulu à ce moment-là de votre ouvrage?
Oui. En fait, je voulais montrer que la vengeance n'est pas facile. Même quand on veut la faire, quand on hait la personne du plus profond de son être, c'est pas évident de devenir soi-même un monstre. C'est ça le truc.
Oui.
C'est que Camille est une femme humaine. Je pense que vous vous en êtes rendu compte.
Oh,
c'est
tout
une
à fait.
jeune femme très sensible, qui adore lire. Et c'est une femme qui avait des rêves. Donc c'est ça le problème. C'est vraiment devenir un monstre, ce n'est pas quelque chose de facile pour Camille, en fait.
Oui.
Pour cette jeune femme qui, en plus, n'est pas très âgée, quoi, vraiment.
Et
C'est
oui.
encore un petit bout de femme. Donc, c'est pour ça, oui, que la mort est plutôt douce, justement.
Oui. Et donc, la police se remet en route, forcément, puisqu'il y a un meurtre de ce docteur Thomas. Est-ce que là, elle a un doute? Parce que qui peut avoir voulu tuer un docteur et ce docteur Thomas qui avait bonne presse auprès de ses pairs et de ses patients, on va dire? Très peu de preuves, justement, sur cette scène de crime. Il peut y avoir tellement de suspects parce que la police, finalement, découvre des victimes avant Camille et elle va en trouver après. Et il y a des filles qui sont retrouvées mortes directement. Et il a fallu faire un compte à la police et vous aussi, finalement, pour ne pas trop vous perdre parce que à un moment, on se retrouve avec des morts, des à moitié morts, des à moitié vivants. C'est difficile pour arriver à un moment, là, dans ce chapitre-là, pour vous suivre, c'est hard.
Ah, ça c'est sûr, c'est pas évident en effet, mais je voulais montrer que cette personne est vraiment, c'est pas son coup d'essai quoi. Et puis oui, en effet, je m'étais fait une liste pour justement ne pas me perdre moi-même. En effet, je vais pas vous le cacher, j'avais une petite liste à côté et puis je checkais au fur et à mesure. Alors celle-là j'en ai parlé, celle-là j'en ai parlé. Vraiment, c'était limite une liste de courses, mais en version macabre quoi. C'était vraiment macabre, mais oui, c'est.
Oui. Qui est Claude Ferdinand sans dévoiler son rôle dans votre roman? Parce que j'ai l'impression qu'il est la cinquième roue de la charrette. Je me trompe ou pas?
Honnêtement, c'est. Oui, là, vous vous trompez un petit peu. Parce que
ah.
C'est pas la cinquième roue de la charrette, non. En effet. Mais en fait, Ferdinand, justement, c'est l'exécuteur testamentaire des parents de Camille, en fait.
Oui.
Donc en fait, quand ils sont décédés, ils ont légué ce qu'ils avaient à leur héritière.
Oui.
Et en fait, lui, voilà, il servait à ça. C'est l'intermédiaire, en fait. En
Oui,
quelque sorte.
Ça on le comprend un peu après. Mais là, moi, au début, je me suis dit, mais lui, il est victime aussi finalement, sans être victime, quoi. Mais maintenant que vous me faites voir les choses autrement, c'est vrai, vous avez raison. On fait la connaissance aussi d'Antoine Sabatier, de Rachid Benbarka, et sans les dévoiler, eux aussi, qui sont-ils? Parce que eux, ils sont pas, c'est pas des enfants de cœur quand même, hein?
Ce ne sont pas des enfants de cœur, ça c'est sûr. Et en fait, ce sont des personnages qui sont quand même principaux aussi
Oui.
dans mon roman, justement. J'ai l'impression qu'il n'y a que des personnages principaux, quasiment, et pas vraiment de personnages secondaires.
C'est vrai.
Parce que dans une histoire, justement, même, surtout dans les agressions, les choses comme ça, il n'y a que des personnages principaux.
Oui.
C'est juste qu'ils n'ont pas le même rôle. Il y a les victimes, il y a les bourreaux, et puis il y a les personnes qui essayent d'aider les victimes.
Oui.
Eux, je dirais que ce sont des personnages masculins, déjà.
Oui.
Et en général, dans ce genre de roman, les personnages masculins n'ont pas toujours le beau rôle.
Octave Dubroca est une victime aussi. Sa femme est très malade et pourtant il est suspecté. Qui est-il lui aussi? Il est victime aussi. Il est victime finalement.
Oui, c'est une victime. Pour moi, c'en était une même, mais depuis le début en fait.
Oui.
Mais oui, la police le soupçonne.
Oui. Et est-ce que de le fait que sa femme soit malade, il ne peut pas échapper à être entendu par la police de toute façon.
C'est ça.
Il est surveillé de près?
Quand même, oui, un minimum, forcément. Du moment que vous êtes suspect, vous êtes toujours surveillé.
Oui.
Et puis, c'est ça le truc, c'est que vu que sa femme est malade, la police se doute déjà que de toute façon, il ne s'enfuira pas, vu qu'il ne peut pas laisser sa femme.
Oui.
Donc, c'est pour ça qu'il est surveillé, mais pas forcément de très près non plus. C'est bon.
Oui.
Vous n'allez pas abandonner votre épouse qui est gravement malade pour échapper à la police.
Tout à fait. Tout à fait. Surtout qu'il a, elle a une maladie qui n'est pas simple, quoi. Que vous ont dit ceux qui ont lu ce livre? Est-ce que vous avez rencontré déjà des lecteurs ou peut-être de vos proches qui ont lu et qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
Que c'était un roman qui n'était pas facile non plus, ça c'est sûr.
Je les comprends.
Mais qu'il était très réaliste et qu'il était bien écrit et émouvant en fait. C'est un roman, on ne peut pas s'en détacher, c'est ce qu'on me dit à chaque fois. Mais qu'en effet, il y a des passages du roman qui ne sont vraiment pas simples, mais que ça va avec le thème en fait.
Ah, tout à fait.
Il faut que ce soit des passages pas simples. C'est malheureusement les victimes d'agressions sexuelles, j'ai envie de dire, elles vont pas en thalasso. Elles vont
Oui.
pas se détendre à Caliceo. Elles vivent des sévices, elles sont détruites et c'est ça le truc, c'est que je ne pouvais pas écrire quelque chose de doux sur un sujet aussi difficile.
Pendant l'écriture, quand vous vous retrouviez dans la rue, n'avez-vous pas eu peur vous-même?
Si, honnêtement, si. Mais même il y a une de mes amies, je vous le dis là, c'était vraiment très très drôle. Elle m'a appelée un moment alors qu'elle avait lu mon roman. Elle m'a dit, Émilie, je suis dans une ruelle sombre et là maintenant je me dis que je vais finir comme dans ton roman. Je vais finir comme Camille. La prochaine victime, c'est moi. J'en ai ri sur le coup, je lui ai dit,
Oui.
t'as pas retenu la principale leçon qui est que la majorité des agressions ne se passent pas dans la rue par des inconnus, elles se passent chez vous et avec des gens que vous connaissez bien, voire très bien,
Eh oui.
ou que vous avez déjà croisés.
Oui, parce que elle, finalement, ces personnes, elle les connaissait au moins de vue et elle ne s'en est pas doutée.
Ah, on se doute jamais de rien, malheureusement, on ne peut pas soupçonner son entourage. Qui soupçonnerait son voisin d'être un agresseur, ou même son meilleur ami,
Oui.
son frère, ou qu'importe.
Oui.
Les victimes ne soupçonneront jamais leur entourage, ce qui est totalement normal.
Oui.
On ne peut pas les blâmer, c'est impossible de soupçonner ça.
Oui. Le titre Personne est vraiment approprié au texte. Hein, quand on a lu, on se dit oui. Il est de vous? La couverture, c'est vous aussi qui l'avez choisie?
J'avais suggéré l'idée à la maison d'édition, mais après c'est la graphiste qui a fait un travail extraordinaire. Je la remercie d'ailleurs beaucoup parce que oui, j'ai trouvé que cette couverture était très adaptée au roman.
Tout à fait, c'est vrai. C'est vrai que c'est vraiment poignant. Alors j'avoue que moi, j'aurais vu ce livre en rayon, je ne l'aurais pas lu. Franchement, je ne l'aurais pas lu. Mais bon, j'appelle de temps en temps les auteurs à venir présenter leur ouvrage. Et c'est vrai que vous me l'avez proposé. Et j'ai dit, bon, ben, il est petit, je vais avoir vite fait de le lire. Deux temps, trois mouvements, demi-journée, c'est bon. J'ai mis plus d'une semaine à le lire parce qu'il a fallu que je revienne en arrière pour arriver à bien comprendre, à bien m'imprégner, savoir si je ne m'étais pas trompée dans la lecture. C'est un travail formidable que vous m'avez donné, mais en même temps, c'est un travail de découverte et c'est vraiment un très beau livre. Il faut s'accrocher, c'est tout.
Bon, en tout cas, merci beaucoup, hein. Mais oui, il faut s'accrocher. Et après, c'est comme tous les romans, malheureusement, qui parlent de sujets sensibles. Il faut
Oui.
s'accrocher.
Tout à fait. Oui, mais il y a des. Il m'est arrivé d'en lire, à part un autre peut-être qui était très très dur aussi, sur un tout autre sujet. Mais franchement, en plus, ce sont des livres souvent écrits par des hommes, des thrillers que j'ai lus, et ils ne sont pas aussi agressifs, aussi sordides, durs. Il y a des moments où c'est quand même assez sympa, et puis c'est des enquêtes policières. Ce n'est pas sur un sujet pareil, quoi.
C'est déjà pour ça. Et puis, honnêtement, il y a aussi peut-être le travail de recherche que j'ai fait derrière et ainsi de suite. Je me suis rendu compte que la réalité n'est pas rose. Et c'est ça
Eh
le truc.
oui.
C'est que vraiment, la réalité, elle est dure.
Oui.
Donc, mon roman, comme il parle d'un sujet qui est réel et qui en plus est mais vraiment toujours d'actualité, il a toujours été d'ailleurs.
Toujours.
C'est ça le truc, c'est que je ne peux pas écrire quelque chose de tout mignon, tout beau, tout rose, alors que même moi, des fois, je tombais des nues. Je ne pensais pas que c'était possible de vivre des choses aussi horribles. Je pensais pas que c'était possible. Moi, je pensais que c'était dans l'esprit criminel. Moi aussi, au début, je suis tombée des nues comme vous. Donc, c'est pour ça.
Oui.
Mais là, c'est vraiment la réalité que je décris, en fait. J'ai fait ça sans faux semblant, comme on dit. Ce n'est pas
Oui.
hypocrite.
Oui. Et donc, quand vous écrivez, parce que les pensées de Camille sont en italique, enfin, en tout cas, le récit est en italique, ce sont les fruits de vos recherches que vous avez mis là.
Exact. C'est vraiment les témoignages des victimes, etc. Et puis aussi, ils sont en italique parce que si jamais certaines personnes sont sensibles, ils pourraient éventuellement les sauter.
Oui, c'est
parce
vrai.
Parce que dès qu'on voit un passage en italique, on sait que c'est un flashback de la victime. Donc, si vous êtes très sensible à certaines sévices ou qu'importe,
oui,
ou que vous ne vous sentez pas de les lire, ça peut être sauté.
Oui, je comprends. Et c'est vrai que c'est très bien fait parce qu'on a des indices de temps en temps, mais on ne les voit pas facilement, quoi. C'est ça aussi un point fort chez vous. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous avez mis ce point final de ce livre? Est-ce que vous êtes contente de l'avoir fait? Je pense que oui. Est-ce que ça vous fait peur aussi de l'avoir fait?
Honnêtement, j'étais très heureuse quand je l'ai fini, puis même j'étais contente de l'histoire. Je me suis rendu compte aussi que oui, les indices étaient bien dissimulés, donc justement qu'on ne saurait pas la fin. Il faudrait lire la fin pour le savoir.
Oui.
Mais je dois avouer aussi que j'ai quand même eu un pincement au cœur, honnêtement. C'est pas forcément évident à justement même de le revoir, de le relire, etc. Mais c'est parce qu'il en fait, il m'émeut, comme on dit.
Oui.
Justement, je suis émue à chaque fois que je le relis, même en tant qu'auteur, en fait. Donc je me dis, mes lecteurs, ça doit être la même chose. Quand ils le lisent, ils doivent être émus, mais ils doivent aussi être un peu sensibles, justement, un peu retournés aussi par le calvaire qu'a vécu ma victime, justement, la victime que je décris dans le roman, quoi.
Ah, mais c'est vrai que de temps en temps, bon, eh bien, il faut essuyer
La petite larme, oui.
la petite larme qui est là parce que c'est très, très, très émouvant. Je ne sais pas comment vous le dire, mais vous avez fait un thriller énorme, énorme, digne des plus grands d'ailleurs. Les détails ne sortent pas que de votre imagination, vous nous l'avez déjà dit. Vous avez eu besoin d'aide. Est-ce que des fois, il vous est arrivé en écrivant certains mots de dire « je vais peut-être pas mettre ce mot-là, il est trop fort ».
Exact, oui, ça m'est arrivé, honnêtement. Mais le problème, c'est que je trouvais un mot qui était tout aussi fort à chaque fois, mais qui était juste un synonyme, en fait.
Oui.
Donc, c'est pour ça, au final, il y a des moments où je me disais « je vais laisser ce mot-là, je peux pas mettre autre chose ». C'est pas possible.
Oui.
Ça va être dur, ça peut être violent ou même cru, mais voilà, je pouvais pas faire autrement. Il faut pas dénaturer la parole des victimes non plus.
Tout à fait. Est-ce qu'il vous est arrivé à un moment de dire « oh, j'arrête l'écriture parce que là, c'est trop fort, c'est oppressant, c'est tellement triste qu'on ne peut pas l'imaginer ».
Honnêtement, non, ça m'est jamais arrivé.
D'accord.
Mais après, je suis déjà quelqu'un qui adore les séries policières.
Oui.
Voilà, je suis féministe, mais depuis mon plus jeune âge, donc j'ai écouté tous les témoignages que l'on peut voir sur Instagram, ou qu'importe, sur Internet, ou même les chaînes criminelles que l'on voit sur YouTube. Donc j'avoue que j'ai un petit peu l'habitude aussi
Oui.
De voir ce genre de choses, ou même de les lire.
D'accord.
Donc à force, on finit par se créer une sorte de carapace aussi, même si c'est facile à briser d'un côté.
Oui. C'est vrai. Merci de m'avoir confié cette lecture. C'est une lecture poignante. Elle est brutale, parfois. Elle fait se retourner. Parce que j'avoue que quand je vais dans... Il m'est arrivé depuis cette lecture d'aller dans des endroits un peu où je me retrouve un petit peu seule. Et bien, je me suis retournée. Je me suis surprise à me retourner. Pour une jeune femme, et alors je ne vous connaissais pas, hein, c'est la première fois qu'on se rencontre, et un petit bout de femme comme vous, écrire avec autant de bestialité, de cruauté, de férocité et d'inhumanité, mais c'est une sauvagerie si violente que vous avez mis dans ces pages. Est-ce que peut-être c'est pour extérioriser aussi tension et cette haine que vous avez d'avoir lu tous ces témoignages et peut-être aussi de vous-même pour justement crier au monde de m'arrêter, quoi.
C'est justement pour crier au monde qu'il faut arrêter, qu'il faut justement agir. Il y a des victimes, mais tous les jours, vraiment tous les jours, vous avez je sais plus combien de femmes qui sont victimes de viols en France, d'enfants, et ainsi de suite. C'était juste un cri du cœur pour dire mais il faut arrêter ça, quoi, il faut agir. Ou même tout simplement le cri des victimes, parce que entre la police qui parfois n'est pas forcément la plus qualifiée pour les aider, les soutenir, certaines associations qui parfois ne se sentent pas non plus capables de recueillir l'entièreté de leurs témoignages, parce que plus le témoignage est difficile et plus il faut de temps ou de personnes professionnelles pour les prendre, ou même leurs proches qui ne les soutiennent pas forcément. Il y a des victimes qui se retrouvent un peu seules, quoi.
Mmh.
Après ça, comme si c'était elles les coupables.
Oui,
pour
je
eux.
Comprends.
Donc c'est un peu un cri du cœur aussi, même pour les victimes, je pense.
Mmh. Est-ce que ça vous a aidé aussi à extérioriser vos tensions d'étudiante ou pas?
Un petit peu quand même. On a la pression quand on est étudiant et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. On a peur de l'échec.
Oui.
On a peur à chaque fois même que nos notes ne suffisent pas à rattraper. C'est pas forcément évident, la faculté, on va pas se le cacher. Ou même les cursus prestigieux, ça c'est encore pire honnêtement. S'il y
Oui.
a les exigences qui se retrouvent derrière, il y a aussi parfois la compétition, l'animosité qu'on retrouve entre étudiants plutôt que l'entraide. Donc oui, j'ai extériorisé aussi quelques tensions de ma vie d'étudiante, ça c'est sûr.
D'accord. Comment est-ce que vous vous êtes sentie quand Cédric, à la fin, a rendu hommage à Camille? Vous saviez que là, c'était fini?
Oui, je savais que c'était fini. Honnêtement, pour moi, c'était la fin. Je la voyais pas autrement, cette fin. Et
Oui.
en fait, je sais pas pourquoi je la trouvais magnifique. Même quand je l'écrivais, je me disais, c'est comme ça que ça doit se terminer et pas autrement.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, on va pas parler de Camille davantage, hein. On va lui laisser vivre sa vie, si elle vit une vie, on ne sait pas. J'invite en tout cas les auditeurs à se procurer ce livre. On le trouve partout?
Amazon, Fnac, Cultura, et puis vous pouvez toujours le commander en librairie, bien
Tout à
sûr.
fait, bien sûr. Et c'est vrai que il faut le lire pour arriver à imaginer le calvaire d'une personne. Est-ce que vous vous êtes posé la question aussi, parce que ça existe, on sait que ça existe, même si personne n'en parle, ça aurait pu être un garçon au lieu de Camille.
Bien sûr. Ah ça oui,
Et
mais...
vous, ça vous a effleuré l'esprit de parler d'un garçon plutôt que de Camille ou pas?
Honnêtement, oui. Mais en fait, j'ai préféré aussi montrer le calvaire que peuvent vivre certaines femmes, justement, parce qu'il y a quand même des choses que les femmes peuvent vivre, en particulier, malheureusement,
Oui.
qu'on ne peut pas forcément faire vivre à un homme. Ça,
Tout à fait.
physiquement, c'est plus compliqué sur certains points, quoi.
Oui, tout à fait, je comprends.
Et la majorité des victimes sont des femmes, en fait. Il y a
Eh
des
oui.
hommes, ça c'est sûr, mais la majorité des victimes sont des femmes.
Oui.
Enfin, du moins celles qui en parlent, bien sûr.
Oui. Je comprends.
Donc c'est plus simple de recueillir des témoignages de femmes aussi que d'hommes. C'est aussi pour ça.
Oui. Les hommes en parlent moins qu'une femme?
Honnêtement, de ce que j'en ai vu, oui.
D'accord.
Et puis il n'y a pas que ça aussi. Je pense qu'ils ont peur de ne pas être pris au sérieux. On imaginera toujours l'homme qui peut se défendre. C'est le cliché que peuvent avoir certaines personnes, ou même la police, tout simplement. Quand vous êtes un homme, c'est mais comment ça, vous n'avez pas pu vous défendre? Mais encore plus si jamais ils sont agressés par des femmes. Parce que ça, c'est possible aussi. Hein.
Oui, tout à fait.
Ça, c'est justement aussi le double calvaire aussi des victimes masculines. Ce côté, à chaque fois, on passe pour des faibles parce qu'on n'a pas pu se défendre face à une femme, alors que des fois, c'est juste, on a été choqué, on n'a pas pu, ou même on ne sait pas ce qui s'est passé juste avant.
Oui. Est-ce que vous avez un autre projet? Et si oui, sera-t-il aussi un thriller, aussi dur ou un peu moins?
Ce serait un thriller, mais beaucoup moins dur, honnêtement. Là,
Ah.
je commençais avec le sujet qui me tenait à cœur, etc. Je ne vais pas vous le cacher, quand on est au jeune auteur, on n'est pas assuré d'être publié, et puis encore plus d'accéder à des maisons d'édition correctes, en fait.
Mmh.
On n'est pas assuré de ça. C'est plus dur de se faire connaître quand on est jeune. Il faut d'abord faire ses preuves. Le prochain sera aussi un thriller féministe,
D'accord.
mais vraiment beaucoup moins dur. Ce sera vraiment sur l'avortement cette fois.
Bon, très bien. Et donc, justement, l'éditeur, que vous a-t-il dit? Parce que là, c'est un livre qui doit marcher, ça.
Honnêtement, il m'a dit, quand c'est une femme, justement, mon éditrice, elle m'a envoyé un petit mot en plus du contrat d'édition classique. Il y avait marqué, vous signez un roman bouleversant et poignant, mais on ne peut plus s'en détacher.
Ah, mais c'est vrai. C'est
Et
vrai, elle a raison.
ce sont les mots qu'elle a utilisés. J'avoue que ça me faisait un peu bizarre parce qu'à chaque fois, on m'avait dit, un jeune auteur, mais laisse tomber, tu vas devoir t'auto-publier, tu vas finir sur Edilivre ou un truc comme ça. C'est ce qu'on m'avait dit, c'est logique. Je pensais même pas que je serais publiée par une maison, etc. Mais je suis vraiment contente qu'il m'ait laissé ma chance, vraiment.
Ah, mais tout à fait. Après, quand on a lu ce livre, on ne peut que vous donner votre chance, hein, franchement. C'est trop fort, quoi. C'est trop. Il faut que les auditeurs le lisent pour arriver à comprendre cet état d'esprit que vous deviez avoir quand vous l'avez écrit. Moi, je
Honnêtement.
pense qu'il faut faire ça.
Oui, je pense que oui.
Nous allons laisser les auditeurs se procurer dans ce beau thriller chez tous les libraires ou auprès de Véron Éditions ou dans d'autres magasins et mener leur enquête parce qu'il faut la mener, cette enquête, et ce n'est pas évident. Merci, Émilie, de votre confiance. Je suis très heureuse de vous avoir lu, même s'il faut de temps en temps reprendre du souffle parce que c'est dur. Qu'est-ce que vous allez nous proposer comme musique pour finir cet entretien? Eh bien, je vous laisse le mot de la fin.
Ce sera l'aveu de Shang-El. Pour moi, cette chanson signifie la vengeance, tout
Oui.
simplement. Donc, c'est justement ce qui peut arriver ou pas dans le roman. Mais pour moi, c'est vraiment une chanson, il faut l'avoir écoutée quand on lit ce roman. Comme ça, on comprend un peu mieux aussi l'état d'esprit des victimes et ainsi de suite. Et je vous remercie pour cette interview, en tout cas. Merci beaucoup, Gisèle.
Mais c'était normal, vous m'avez proposé cette lecture, je me devais de la lire et d'arriver à faire quelque chose. Ce qui me faisait le plus peur, c'était de ne pas dévoiler, justement. Et ça, j'avais vraiment peur de ça. Je dis à mes auditeurs que franchement, c'est un très petit livre, et, il n'y a que 133 pages à lire, c'est pas beaucoup, mais accrochez-vous parce que c'est très intense. En tout cas, merci beaucoup, Émilie. J'allais vous appeler Camille, pardon.
Merci à vous et c'est pas un souci.
À bientôt.
À bientôt.
Hey, tu creuses.
c'était Page après page, une rencontre intimiste avec un auteur. Mmh.